OK, on va regarder un texte en hébreu et j'aimerais partager avec vous un petit peu sur la culture du ciel. Il y a 34 ans, je suis venu en France parlant anglais. Je me souviens bien, en allant une fois au Gare du Nord pour acheter un ticket de train, un billet de train, et puis je m'approche au guichet et je demande à la personne, je dis, mais est-ce que vous parlez anglais? Le gars me regarde avec un dédain dans les yeux, il me dit, monsieur, c'est la France. Je dis, oui, mais bon, ce n'était pas ça ma question, je sais où je suis. Mais c'était sous-entendu, écoutez, en France, on fait comme les Français, même si on ne l'est pas. Hello! Et parfois, honnêtement, mes amis, quand je parle avec mon Père Céleste, il ne me traite pas comme ce gars au guichet à Gare du Nord, mais quand même, c'est comme si j'entends un message au ciel qui me dit, mais quand même, ici, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'Amérique non plus. C'est le royaume de Dieu ici. Et ici, on parle royaume de Dieu. Maintenant, heureusement pour vous et pour moi, Dieu parle aussi anglais et il parle aussi français. Wouh! Parce que sinon, waouh! Mais j'ai compris que si j'allais réussir en France et si j'allais pouvoir communiquer avec les Français d'une manière efficace, il fallait que j'apprenne non seulement la langue, mais aussi la culture. Surtout en France, parce que le français, au moins le français de souche, il est fier de sa culture. Même s'il ne la connaît pas, il en est fier. Amen. Et il est fier aussi de son histoire. Donc j'ai pris du temps, mes amis. J'ai pris du temps. Et puis, je vous dis qu'il n'y a pas une semaine qui ne passe sans que j'apprenne encore une chose nouvelle. C'est juste extraordinaire. Et c'est exactement pareil avec le royaume de Dieu. Donc, j'aimerais vous apprendre à parler royaume de Dieu. OK. Hébreux 13 et le verset 20. Hébreux 13 et le verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et Seigneur, nous te remettons ce temps de la parole et nous prions que tu libères sur nous tous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et tout le monde dit Amen. Mes amis, au ciel, dans le royaume de Dieu, Dieu parle l'alliance. Dieu parle l'alliance. L'alliance est beaucoup plus qu'un simple engagement. Bien entendu, l'alliance commence avec un engagement. Mais une alliance divine est nettement plus grande que ça. Si vous voulez, une alliance, surtout une alliance divine, crée des paramètres par lesquels l'homme trouve son accès au ciel et que le ciel trouve son accès sur la terre. Encore une fois, c'est très important. L'alliance nous donne les paramètres par lesquels Dieu crée un accès sur la terre et que l'homme trouve son accès au ciel. Et c'est pour cela que pour nous en tant que chrétiens, et certainement vous avez dû penser par là, d'être sûr et certain de ce que vous voulez et que dans votre quête devant le Seigneur, vous étiez justifié avec vos demandes. Mais Dieu, c'était comme s'il a pris des vacances chaque fois que vous priez. Je suis le seul qui passe par là? OK. Écoute, c'est absolument extraordinaire. Et parfois, je trouve par la suite que ce que je demandais il y a quelques années, heureusement, Dieu ne m'a pas exaucé. Parce qu'aussi bien que j'étais convaincu à l'époque que j'étais dans sa volonté, par la suite, j'ai appris que je ne l'étais pas. Et hallelujah, Dieu, il a dit, mon fils, je t'entends bien, mais la réponse est non. Hello. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris les paramètres que Dieu a instaurés dans sa parole. Vous vous souvenez la fois où David qui était un homme d'alliance, absolument extraordinaire quand vous regardez vraiment la vie du roi David, un homme d'alliance. Et la première chose qu'il voulait faire quand il est devenu roi de tout Israël, vous vous souvenez? Il voulait ramener quelque chose en Israël qui a été volé par les Philistins. Et c'était quoi? L'arche de quoi? Ah. Vous voyez, David était vraiment un homme d'alliance. Et la première chose qu'il voulait ramener en Israël, c'était le symbole suprême de l'alliance divine, l'arche de l'alliance. Donc, il a obtenu un moyen de transport pour ramener l'arche exactement comme les Philistins ont utilisé pour prendre l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en cours de route, la char heurte une bosse sur la route. L'arche de l'Alliance est déstabilisée. Je ne me souviens plus, excuse-moi Seigneur, mais le nom du soldat du roi David qui a étendu sa main pour stabiliser l'arche et dès qu'il a touché, Dieu l'a frappé mort. Waouh! Alors là, ça c'est sévère! Je ne sais pas l'impact que ça vous donne quand vous lisez la Bible. Mais quand je tombe sur une histoire comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, quand même, c'est un peu injuste. Franchement, tu es un peu méchant, là. Ce pauvre gars, imagine son copain qui devait dire à sa femme, la femme du soldat, désolé, Dieu, il a tué ton mari. Pourquoi Dieu a tué mon mari? Ben écoute, on ne sait pas exactement, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il voulait aider Dieu en stabilisant son arche. Et pour cela, Dieu l'a tué. Oh. Mais le problème était quoi exactement? Est-ce que le problème était dans le soldat? Non. Non, le problème était avec David. Ah bon? C'était quoi le problème avec David? David utilisait moins de transport qui n'était pas selon les paramètres bibliques. David ignorait le fait que c'était en dehors des paramètres. Néanmoins, malgré l'ignorance du roi David, Dieu, qui connaît bien sa parole, a dit non, tu es un homme d'alliance, c'est un symbole d'alliance pour un peuple d'alliance, donc il faut respecter les paramètres de l'alliance. Et Dieu avait bien prescrit au temps de Moïse que l'arche est portée sur les épaules des Lévites. Et pourquoi? Parce que l'épaule représente la gouvernance de l'homme. Amen. Et que la gouvernance de l'homme est toujours soumise à l'autorité divine. Alléluia. Il y avait une raison, mes amis. Mais David, qui ignorait les paramètres, malheureusement, les a transgressés dans son ignorance. Mais quelqu'un a payé le prix. Et je me pose la question, combien de chrétiens paye un prix pour les non-exaucements de prière parce que nous ignorons les paramètres de l'Alliance. Hello! Mes amis, nous avons tous un intérêt d'apprendre que Dieu est un Dieu d'Alliance. Donc déjà, laissez-moi vous donner les 7 principes. On va aller très vite. Je vous ai préparé un tout petit PowerPoint pour nous accompagner parce qu'on va aller assez vite. 7 principes pour mieux comprendre le Dieu d'Alliance. Déjà, numéro 1. Dieu est un Dieu d'alliance. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Dieu est un Dieu d'alliance. C'est vraiment le point numéro uno. Tu ne peux pas échapper à ce fait que Dieu est un Dieu d'alliance. Numéro 2. Tout ce que Dieu fait, il fait à travers une alliance. Tout ce qu'il fait. Dieu va toujours agir dans les paramètres de son alliance. Amen. Je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit. Alors, là, il y a un psaume qui dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Même quand Dieu dit quelque chose, il se soumet à sa propre parole. C'est extraordinaire. Hein? Mais vous vous rendez compte? Dieu n'est pas là comme un dictateur en train de dire, oh, j'ai envie de faire ça, pof, je le fais. Il peut, parce qu'il est Dieu, mais il ne le fait pas. Dieu crée des paramètres et là, il dit, OK, on va exalter ça et c'est comme ça que je vais maintenant œuvrer parmi mon peuple. Vous voulez savoir vraiment ce que Dieu veut faire avec vous? Lisez la parole, tout est écrit. Tout est écrit. Ah, oh Dieu, montre-moi ta volonté. Ben, il a déjà montré. Ça s'appelle la Bible. OK, numéro 3. Non, pas de PowerPoint. OK, pas grave. Je suis parmi les gens les plus intelligents de l'île. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Vous avez déjà appris tout ce que je viens de dire par cœur. OK, pas de problème. Numéro 3. Toute alliance divine est scellée avec le sang. Maintenant, dans la Bible, il y a toutes sortes d'alliances. Par exemple, David et Jonathan, ils avaient une alliance entre eux. Mais une alliance divine est toujours scellée avec le sang. Toujours. Pourquoi? Sans aller dans tous les détails, mais bref, il y a un texte juste après le déluge où Dieu dit à Noé qu'il a le droit maintenant de manger la chair de l'animal. Avant, tout le monde était vegan. Mais après le déluge, l'homme avait le droit de manger la chair des animaux. Mais Dieu dit, mais pas le sang, parce que l'âme est dans le sang. Très intéressant cette phrase. L'âme est dans le sang. C'est pour cela que Dieu demandait des sacrifices de sang. Parce qu'il fallait que l'âme d'un innocent meure pour un coupable. Encore une fois, l'âme d'un innocent devait mourir pour le bien-être du coupable. D'accord? C'est pour cela que Jésus a dû verser son sang. C'était obligatoire. Sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché, la Bible nous dit. OK? Quatrième chose, très important, l'alliance divine établit toujours un lien entre le ciel et la terre. Toujours. Là où vous voyez une alliance, là, il y a un accès direct avec le ciel. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob lorsque, parce qu'il avait peur de son frère, parce que quand même, il a bien triché contre... Il a vraiment fait quelque chose d'injuste avec son frère Ésaü. En tout cas, ils s'enfuient de la maison de son père pour aller se réfugier chez Laban. C'est là où il va rencontrer Léa et Rachel qui deviennent les mères des 12 tribus. OK. Et puis, à un moment donné, il s'endort et dans le sommeil, il a une vision. Vous vous souvenez de l'histoire? Et qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit une échelle dans le haut, touche quoi? Le ciel. Et là, il regarde en haut de l'échelle et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une porte. Une porte qui s'ouvre jusqu'au trône de Dieu. Il se réveille le lendemain et qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans... Dieu était dans ce lieu et je ne le savais même pas. Et il baptise ce lieu, Bethel, qui signifie la maison de Dieu. C'est la première fois que nous voyons dans la Bible cette référence à la maison de Dieu. Chose qu'il faut savoir que c'était le dernier endroit où Jacob a dormi dans la terre promise avant de franchir la frontière pour aller chez son oncle. Dans la terre promise, Dieu voulait envoyer un message très clair que parce que tu es porteur d'une alliance, tu as un accès au ciel. Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas. Mais si on pouvait regarder dans le spirituel, on aurait vu cette échelle suivre Jacob. Hello. Et chaque fois que Jacob bougeait, cette échelle le suivait. Le problème, c'est que Jacob n'était même pas conscient du fait qu'il y avait cette échelle. Et dans la vision, qu'est-ce qu'il voyait sur l'échelle? Des anges. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils campaient, ils mangeaient. Que faisaient les anges? Ils montaient et descendaient. Ça veut dire qu'il y avait une circulation entre le ciel et la terre. Wow! Et ça, c'est avec l'alliance abrahamique. Imagine l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Mes amis, on a quelque chose de nettement plus grand qu'une échelle. Hein. On a quasiment une autoroute entre nous et le ciel. Woo-hoo! Hallelujah. Amen. Et ce n'est pas que les anges qui montent et disent... Vous savez, est-ce que vous avez jamais essayé de monter une échelle lorsque quelqu'un d'autre descendait? C'est vachement difficile. Hein. Ce n'est pas du tout évident. Mais imaginez une autoroute comme la 1-1. Qui passe de Paris jusqu'à Lille, tu as 3 voies sur les 2 côtés, tu fais 130 km l'heure. Alors, franchement, avec l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, je ne vous dis pas le nombre d'anges qui sont en train de circuler rien que dans ce lieu, mes amis. Il y a un tel trafic d'anges. Woo! Le problème n'est pas avec les anges, c'est que vous et moi, nous ignorons qu'il y a une autoroute qui nous suit partout. Où je vais, j'amène l'autoroute avec moi. Amen. J'ai pas besoin de dire, « Oh, Seigneur, veux-tu venir à mon secours? » Et il est déjà là, mes amis. C'est moi qui ignore que j'ai une autoroute avec moi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un chrétien à vélo, je suis un chrétien à Lamborghini. C'est une voiture de sport. Okay. Cinq. Le temps passe. Je suis où, moi? Cinquième. Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est archi important. Dieu, écoutez ça, Dieu ne change jamais, mais les paramètres changent. Je vous donne quelques exemples. Au temps d'Abraham. Okay, Abraham pouvait aller sur n'importe quelle montagne, créer un autel et adorer le Seigneur. Dieu inaugure une nouvelle alliance avec Moïse. Et Dieu dit, plus sur les montagnes, uniquement dans le tabernacle. Tu vois, Dieu n'a pas changé, mais les paramètres ont changé. Okay, Dieu il dit au temps de Moïse, vous n'avez pas besoin d'un roi, je serai votre roi. David arrive et Dieu dit, non, je vais établir le trône de David pour toujours. Les paramètres ont changé. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change point, mais les paramètres changent. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches par rapport à nos racines hébraïques. Et j'aime tout ce qui se trouve entre Genèse et Malachie, et je crois que cela fait partie intégralement de notre foi. Mais en même temps, mes amis, il n'y a aucun désir en moi de revenir à une alliance qui prédate celle du Messie. Pourquoi? Parce que Dieu ne change point, Dieu est le même Dieu pour Moïse qu'il était pour Jésus, mais l'alliance a changé. Pourquoi voudrais-je alors abandonner mon alliance avec Jésus pour revenir sur une alliance de Moïse? Ça n'a aucun sens. Parce que l'alliance que je possède aujourd'hui est nettement supérieure. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu ne change point, mais les alliances changent. Si, très vite, une alliance sera toujours contestée par le diable. Le diable déteste l'alliance que tu portes. Pourquoi? C'est à cause de l'accès. Il faut comprendre, mes amis, que le diable, il se fiche royalement de toi. Il se fiche royalement de qui tu es. Ce qu'il veut enlever de la terre, c'est cet accès. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a un accès pour les anges, Dieu, il a un accès sur la terre. Et c'est ça ce qu'il veut effacer. Donc, le diable, il est là avec ses jumeaux, il regarde à l'horizon pour repérer les échelles. Et là, là il voit une échelle, il dit, oh, là, il y a une échelle. Et là, ça fonctionne bien parce que je vois les anges qui montent et qui descendent à l'attaque. Le pauvre chrétien qui n'est jamais attaqué. Pas un seul amen, pasteur, je suis où? Encore une fois, le pauvre chrétien qui n'est jamais attaqué par le diable. Franchement. Pourquoi? Pourquoi il n'est jamais attaqué par le diable? Parce que son échelle est cassée. Ou il ne fonctionne pas, ou le gars il néglige tellement cette échelle, il y a peut-être un ange, mais pas plus que ça. Hello! Mais là où vraiment quelqu'un est vraiment connecté à la culture céleste, il comprend le fait que Dieu est un Dieu d'alliance, il marche comme un homme, une femme d'alliance. Et cette échelle, la taille de l'échelle continue d'année en année à s'agrandir pour qu'il y ait de plus en plus de trafic céleste qui arrive à travers sa vie sur la terre. Mes amis, lui, il devient un grand cible pour le diable. Donc, arrêtez de vous plaindre quand le diable toque à votre porte. Réjouissez-vous. Alléluia, vous grandissez. Amen. OK, là, cette amen était vraiment pauvre, mais... Là, c'est une raison de vous réjouir, mes amis, non pas les vacances. Qui a besoin des vacances? On a juste besoin de la gloire de Dieu. Très rapidement, je vais terminer. Quelles sont les sept alliances divines dans la Bible? Juste très rapidement. J'aimerais quand même vous laisser avec les sept alliances parce que nous sommes un peuple d'alliances. Et on est censé marcher dans la culture de l'alliance, les uns envers les autres et tous ensemble avec Dieu. Et quand vous voyez, quand vous constatez à quel point Dieu est un Dieu d'alliance et tout ce qu'il a fait sur la terre, il fait à travers une alliance, là, ça crée en nous un vrai désir d'être un homme, une femme d'alliance. Amen. Donc, comme vous pouvez imaginer, la toute première alliance, même si le mot n'est pas mentionné dans les textes bibliques, c'était avec Adam. On a tout le langage de l'alliance sans le mot. Déjà, Dieu, visiblement, il fait tuer un animal pour créer des vêtements de cuir pour l'homme et la femme. Donc, il y avait du sang versé. Nous savons aussi que Adam a continué dans la présence de Dieu, même après qu'il était expulsé du jardin. Comment nous le savons? Parce qu'après le meurtre de Caïn, il se plaigne devant Dieu que Dieu l'a chassé de sa présence. Ça veut dire que la présence de Dieu était toujours avec Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec Adam. OK. Deuxième alliance dans la Bible, c'était avec qui? Quelqu'un pourrait me le dire? Avec qui? Heureusement, il a construit un gros bateau parce qu'il a plu. OK. Tout à fait, c'était avec Noé. C'est la deuxième alliance et la première fois que nous voyons cette notion d'un sacrifice de feu associé avec une nouvelle alliance, la mise en place d'une alliance. OK? Très bien. Alors, troisième alliance divine dans la Bible. Abraham, bravo. Je vois que vous êtes bien instruit ici dans cette église. Alors, la différence avec l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et Noé, c'est que l'alliance abrahamique était transférable. C'est la première fois, parce que l'alliance avec Adam a cessé une fois que Adam est mort. Et c'est extraordinaire quand vous regardez ce qui s'est passé à la terre, une fois qu'il n'y avait plus d'alliance sur la terre. Un déluge de puissance démoniaque. C'est là où nous voyons cette référence que les êtres angéliques, entre guillemets, couchaient avec les femmes. C'est après le décès d'Adam. Aussi longtemps qu'il y avait une alliance sur la terre, c'est comme si cette alliance faisait barrage à ces puissances démoniaques. Une fois que l'alliance est enlevée, plus de barrage. Plus de barrage. Pareil avec Noé, c'est après le décès de Noé, c'est là où on commence à voir les empires comme Babylone, comme Égypte, comme la Syrie, et la tyrannie de l'homme sur les autres hommes, l'esclavage et tout le reste. Tout ça, ça se passe après le déluge. Une fois que l'alliance est enlevée de la terre, à nouveau, la terre est remplie des puissances démoniaques. Abraham arrive et Dieu décide, on va maintenant faire une alliance qui est transférable de génération en génération. Et mes amis, vous et moi, nous sommes héritiers même de l'alliance d'Abraham. Alléluia. À partir d'Abraham, toutes les autres alliances sont construites dessus. OK? Après Abraham, on avait qui? On en a parlé il y a quelques instants. Pas encore Jacob? Non. Après Jacob, la prochaine alliance. Moïse, bravo. OK? L'alliance mosaïque. Alors, au temps de Jésus, il faut savoir que pour les saints du Seigneur et les pharisiens, l'alliance mosaïque était vraiment le point de référence et pas l'alliance abrahamique. Mais avec l'apôtre Paul, il change la théologie, il change les donnes, bibliquement parlant, et lui, il fait toujours référence à l'alliance abrahamique et non l'alliance mosaïque. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Parce que Abraham a été justifié aux yeux de Dieu avant de recevoir la circoncision. Et c'est pour cela, le raisonnement de l'apôtre Paul est, si Dieu a pu justifier Abraham par sa foi avant de recevoir la circoncision, ainsi Dieu peut aussi justifier les païens sans qu'il ne soit circoncis. Donc, le Nouveau Testament, surtout les écrits de Paul, font référence toutes à l'alliance abrahamique. Mes amis, vous voyez, pour nous les chrétiens, c'est archi important à comprendre cela. Et parce que si on ne le comprend pas, notre foi ne va pas vraiment bien marcher comme elle doit marcher. Après l'alliance de Moïse, et puis il ne faut pas dénigrer non plus l'alliance mosaïque, parce que c'était avec Moïse que Dieu a instauré la parole écrite. Abraham n'avait pas de Bible. C'est avec Moïse que Dieu donne une parole écrite. Gloire à Dieu. On a cette notion de protocole avec Moïse. Il y avait une façon de venir au Seigneur. Il y avait un lieu qui était dédié à la rencontre avec Dieu. Avec Abraham, on n'avait pas ça. Tout notre culte, mes amis, je dirais, est basé sur l'alliance mosaïque. Cette notion du ministère, que quelqu'un est toujours mis de côté pour servir Dieu, ça provient de l'alliance mosaïque et non pas du temps d'Abraham. Donc nous devons beaucoup de choses à l'alliance mosaïque. Il y avait une autre qui vient avant Jésus, c'est qui? C'est peu connu par les chrétiens, mais et c'est dommage parce que c'est une alliance archi importante. Une alliance divine. Entre Moïse et Jésus. Tout à fait, je l'ai entendu, mais je crois que ça venait de ma femme. C'est l'alliance avec David, le roi David. L'alliance davidique. Il y avait plusieurs choses que Dieu a inaugurées avec David qui n'existaient pas avant. Déjà, un, c'est le temple. N'est-ce pas? Dieu, il a dit au temps de Moïse, « Je ne suis pas un homme que j'habite dans une maison faite de la main de l'homme. » Pourtant, Salomon construit un temple, Dieu dit, « Ok, désormais, je vis dedans. » Encore une fois, Dieu ne change point, les paramètres ont changé. Un trône pour un roi. Dieu voulait être le roi. Vous vous souvenez le grand débat entre Samuel, le prophète, et Israël? Quand Israël a demandé un roi, et Samuel a dit, bah, vous êtes que des rétrogrades. David, il arrive, et Dieu dit, c'est mon roi que j'établis sur le trône, et cela pour l'éternité. Mes amis, quand Jésus est venu la première fois, on l'appelait le fils de. Et quand il revient, il va s'asseoir sur quel trône? Le trône de David, le trône du Christ, est au ciel. Mais quand le Christ vient sur la terre, il ne va pas amener son trône du ciel. Il va s'asseoir sur le trône de David. OK. L'autre chose à qui on peut vraiment remercier David, c'est notre louange dynamique. Parce que la louange au temps de Moïse était une louange liturgique. Mais au temps de David, c'était vraiment la louange libre. Et on peut dire gloire à Dieu et merci Seigneur pour le roi David. Et puis finalement, on a l'alliance supérieure à toutes les autres. L'alliance messianique. Hallelujah. Amen. La descendante d'Abraham est venue pour qu'il soit une source de bénédiction pour toutes les nations. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Hallelujah. Amen. On n'est plus des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nos péchés ne sont pas couverts. Nos péchés sont effacés. Hallelujah. Amen. On n'est pas juste pardonné, mes amis. Maintenant, on est racheté. Hallelujah. Amen. On n'est pas juste libéré des conséquences du péché. Mes amis, maintenant, on est libéré de la puissance du péché. Gloire à Dieu. Ah, mais quelqu'un est très intelligent, il a compté le nombre d'alliances, parce que j'ai dit au début, il y en a 7 alliances divines. Je me dis, mais on est à la 6e et déjà la supérieure. Alors, il y a quoi? Et c'est intéressant de noter que le chiffre 6 correspond à l'homme. Donc, c'est normal que l'alliance qui a touché toute l'humanité soit la 6e, l'alliance messianique. Là, c'est quoi la 7e alliance? Oh, et là, peut-être il faut acheter le livre pour découvrir quelle est la 7e alliance. C'est l'alliance du mariage, mes amis. L'alliance du mariage. Vous vous rendez compte, mes amis, que le mariage entre un homme et une femme, c'est la seule chose que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin d'Éden que lorsque l'homme a été exilé du jardin, il a pu garder avec lui. C'est la seule chose du jardin qui existe encore sur la terre. C'est incroyable. Vous voyez, le mariage n'est pas juste. Ouais, j'ai un petit coup pour ce gars là-bas. Je crois qu'on va passer nos vies ensemble, peut-être faire quelques enfants. Oui, ok, peut-être dans le monde, mais pas dans le royaume. Dans le royaume, c'est un homme qui est racheté par Dieu, un prince de Dieu, qui va épouser une princesse de Dieu pour créer une descendance que la Bible appelle le fruit de l'alliance. Alléluia. Vous dites, mais pasteur Robert, tu as dit tout à l'heure que toute alliance divine est scellée avec le sang. Est-ce que ça veut dire que dans nos cérémonies de mariage, il faut amener un petit agneau et puis le... Là, ça nous mettrait sur la une de la presse française, n'est-ce pas? Où est le sang de cette alliance? Et c'est ça ce qui était tellement magnifique, mes amis. Mais la femme, elle est porteuse de ce sang. Mesdames, vous êtes porteuses du sang de l'alliance divine. Car lors de la première pénétration de la femme par un homme, l'hymen est déchiré et l'hymen saigne. C'est sang. Vous savez qu'il y a encore certaines cultures tribales dans certaines parties du monde où tu amènes quasiment les draps après la première nuit ensemble pour prouver qu'elle était vierge parce qu'elle a saigné. Cela existe encore. Bon, très peu, mais cela existe. Parce que si vous voulez, c'est ça la notion, c'est ça ce qu'a dit Adam d'ailleurs dans le jardin. Les derniers mots proclamés dans la création, dans le récit de la création, c'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il ne dit pas un seul esprit. Il ne dit pas une seule âme, bien que c'est sous-entendu. Mais la promesse divine, c'est que le sang de l'alliance soit versé. Alléluia. Mes amis, le mariage, surtout entre deux chrétiens, c'est une alliance divine. C'est la chose la plus puissante sur la planète. Amen. Et si vous voulez vraiment savoir quelque chose, mes amis, l'intention de Dieu, c'est d'utiliser la famille pour changer le monde, pas l'Église. L'Église est un instrument de Dieu, et croyez-moi, je suis pasteur depuis l'âge de 21 ans, ça fait bientôt 40 ans que je suis pasteur. Okay? J'ai donné ma vie pour construire l'Église de Jésus-Christ. J'arrive à une conclusion aujourd'hui. Si les familles dans l'Église sont malades, comment voulez-vous avoir une Église glorieuse? Amen. Si les enfants passent dans la rébellion et quittent le Seigneur, comment voulez-vous qu'on prêche un message qui transforme le monde? Mes amis, la vraie Église, la puissante manifestation du royaume de Dieu, là où Dieu veut vraiment manifester sa présence, oui, il veut nous visiter le dimanche matin. Et gloire à Dieu quand Dieu est là, comme il était, comme il est maintenant. Mais là, le lieu principal dans le cœur de Dieu n'est pas ici, n'est pas le rassemblement des saints. C'est le rassemblement de la famille. Il veut manifester sa présence chaque fois que vous vous mettez à table. Chaque fois que le papa il ouvre sa bouche comme Abraham pour instruire ses enfants, la voix de l'Éternel. C'est pas le travail de l'Église, c'est pas le travail de l'école, c'est le travail du Père. Il est temps, mes amis, que nous nous battons encore plus pour sauver les, pas juste sauver les mariages, mais créer des mariages qui sont glorieux devant le trône de Dieu et qui reflètent cette vérité, cette révélation que le mariage, alléluia, est le produit d'une alliance divine. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est là où Dieu veut nous amener. Amen. Prions tous ensemble et peut-être tu es là. Ouh. Mes amis, il faut comprendre que la seule chose que le diable a besoin de faire pour nous dérouter et nous dérailler du plan de Dieu, c'est nous rendre amers dans nos relations. Parce que si nous devenons amers dans nos relations, on rompt nos alliances. Et on devient comme le diable, un casseur d'alliances, au lieu d'avoir la nature de Dieu étant un homme et une femme de faiseur d'alliances. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui a déjà quitté l'Église 3 ou 4 fois, qui arrive à s'intégrer dans une nouvelle. Quelque chose arrive dans le cœur de quelqu'un. Quelque chose arrive dans l'âme d'un chrétien quand il a quitté l'Église. Pourquoi? Parce qu'il casse des alliances. C'est différent quand vous devez déménager, mais je ne parle pas de ça. Amen. Je parle vraiment de « Oh, je ne suis plus nourri ici, ce n'est plus vraiment à mon goût, je crois que je vais voir ailleurs. » Je parle de cette attitude-là. Et on casse des alliances. On devient un casseur d'alliances au lieu d'un faiseur d'alliances. Et j'ai remarqué, il n'y a pas de verset, pasteur, tu le sais, il n'y a pas de verset. Mais de mon expérience pastorale, quelqu'un qui a déjà fait ça 3 fois dans sa vie, il faut vraiment un miracle majeur pour qu'il s'intègre dans une nouvelle église. Quelque chose arrive. C'est comme si quelque chose est cassé dans notre âme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre en communauté et bâtir communauté. J'aimerais vraiment vous mettre au défi, mes amis. Si Dieu vous a mis dans cette église, affirmez à nouveau votre place ici. Affirmez devant Dieu, Seigneur, je veux être un homme, une femme d'alliance. Que tu sois célibataire, marié, peu importe. Mais le premier appel aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'on soit des hommes et des femmes qui marchent en harmonie avec la culture céleste. Pas des simples consommateurs, mes amis, mais des bâtisseurs d'alliances. Et si tu as besoin de guérison, et il n'y a pas de chrétien qui n'a pas besoin d'être guéri par une rupture relationnelle. OK? Ça n'existe pas, sauf le chrétien qui s'est converti il y a 30 secondes. OK? Mais si tu es déjà chrétien depuis un petit bout de temps, tu as besoin d'une guérison pour un problème relationnel dans l'Église. Hello? Je suis à la bonne adresse ce matin? OK. On va demander au Seigneur. On n'a pas honte de demander. C'est plutôt honte de ne pas demander. Si on est là, c'est par la grâce. Et non pas par notre propre volonté. Mais il faut s'aligner avec la culture céleste. Amen. Et deuxième, je parle vraiment au couple marié. Il y avait déjà eu une prophétie tout à l'heure. Et je crois que vraiment, il y a quelque chose dans l'esprit. Ça s'applique peut-être pas à tout le monde, mais quelqu'un a vraiment besoin de passer par un temps de guérison dans le couple marié et peut-être ramener cette révélation. Écoute, je vais vraiment me battre pour sauver notre couple. Je vais me battre pour garder notre couple dans la vie et pas juste dans la survie. Alléluia. Amen. Prions tous.